Panorama Économique.
Bienvenue à tous dans Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Au sommaire de cette émission, le Premier ministre Matata Ponyo a défendu cette semaine au Parlement le projet du budget de l'exercice 2013. Nous y reviendrons dans cette émission. Les comptes de la Société Nationale d'Électricité bloqués la semaine dernière par la DGI ont été débloqués suite à un arrangement entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité et le ministre des Finances. Nous reviendrons également sur cette affaire dans cette émission. 150 tonnes de cassitérite exportées lundi à l'étranger via le port de transit de Kalemi, une opération qui entre dans le cadre du processus de traçabilité de minerais amorcé par le gouvernement congolais. Panorama économique à la présentation Jocelyne Moussa Opondé et Agathe Pona Elema. Nous recevons pour commenter et analyser l'actualité économique de la semaine Alki Tengue, analyste économique et stratège, également DG du groupe Synergie Group. Bonjour Alki Tengue.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
Le Premier ministre Matata Ponyo a défendu lundi et mardi au Parlement le projet du budget 2013. Les recettes de ces budgets sont chiffrées à 6 973,9 milliards de francs congolais contre 7 078,2 milliards de dépenses, soit un écart de 104,3 milliards de francs congolais.
La différence entre les recettes et les dépenses devra être trouvée pendant l'exercice budgétaire, a-t-il affirmé, et Jean Bédel Dandoula nous donne des détails.
Six axes ont été dégagés dans les 10 projets. Le renforcement des institutions, le cadre macroéconomique, les infrastructures, le cadre des vies et les conditions sociales de la population, le renforcement du capital humain et la citoyenneté, et enfin la diplomatie. Le plus gros montant est alloué à la réforme des institutions avec environ 2 000 milliards de francs congolais, signifiant que dans ce projet, les dépenses non essentielles des institutions, comme les cartes prépayées, la vaisselle, l'habillement et autres dépenses non utiles, ont été élaguées ou réajustées. Le Premier ministre affirme qu'il compte financer les dépenses d'infrastructures avec l'aide de ses partenaires, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Chine et autres partenaires européens.
Voilà, et les députés ont débattu autour de ces textes de loi afin de ressortir ses faiblesses et ses innovations.
Certains députés ont soutenu ce budget, affirmant qu'il reflète bel et bien la puissance financière du pays. D'autres, par contre, ont estimé qu'il est antisocial, en ce sens qu'il renforce les inégalités entre citoyens. C'est le cas du député Jean-Lucien Boussa, qui est ici au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Pour 1 milliard de dollars prévu pour les investissements aux provinces et aux ETD, que 3 provinces prennent 57,5% et que 8 autres provinces prennent qu'à 42,5%. Par rapport aux préoccupations du pays d'un développement harmonieux et équilibré, mais il faut se donner le moyen de la cohérence entre programme du gouvernement, le DCRP et la politique budgétaire qui nous a été présentée aujourd'hui. Il s'est fait qu'il est totalement incohérent, ce budget. Le taux de croissance prévu par le gouvernement lui-même lors de la présentation de son programme de gouvernement est en évolution de 7% en 2012 et 15% en 2016. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit qu'il va réaliser 7,2% en 2012 et 5,1% en 2016. Première incohérence. Deuxième incohérence, le gouvernement a prétendu lors de la présentation du programme que les recettes de 2013 seront fixées à 7 milliards de dollars américains. Les prévisions qui nous sont présentées en termes de ressources propres ne dépassent pas 5 milliards de dollars américains. C'est une incohérence.
Alki Tengue, on se retourne directement vers vous. Vous êtes notre invité. Quelle analyse faites-vous de ce projet de budget ?
Ma première analyse va à un constat classique. C'est celui de la modicité des moyens dont dispose le gouvernement pour agir. Nous sommes là dans un pays de 2 345 000 km² pour 70 millions de personnes. Même 5 milliards de dollars en recettes propres et 7,5 milliards en recettes totales, ce n'est pas suffisant. Quel que soit le magicien qu'on pourra mettre au gouvernement, il ne fera pas grand-chose. Il faut savoir que les défis sont énormes. Mais il faut savoir aussi que nous sommes à un moment donné particulier, à un moment du cycle de notre pays qui détermine les moyens dont disposent les dirigeants pour gérer. Il y a deux moyens. Le premier, c'est de dire, dans l'immédiat, voilà ce dont nous disposons et qu'est-ce que nous faisons. Et là-dessus, je crois que le gouvernement est en train d'essayer de faire de son mieux pour le faire de manière parfaite. coup de chapeau pour ce gouvernement qui présente son budget en temps réel. On s'est souvenu, les années antérieures, les budgets étaient toujours présentés largement en retard. Deuxième chose, et ceci est très important, c'est de se dire, en même temps que nous gérons les affaires courantes de l'État avec les moyens dont on dispose, il faut envisager de projeter le pays dans l'avenir. C'est extrêmement dangereux d'avoir un pays précaire. Précaire simplement parce qu'il n'a pas les moyens. Quand on dit précaire, c'est aussi parce que nous ne sommes même pas capables, dans le cadre budgétaire actuel, de défendre l'intégrité territoriale du pays et de faire une offre de services publics universels. C'est tout le danger que cela représente. En fait, on ne peut pas continuer à penser que nous pouvons progresser progressivement. On doit faire un bond. Mais ceci demande que nous ayons un grand débat de société, parce que le pays a des atouts.
Quelle aurait été l'innovation que vous auriez voulu voir apparaître dans ce budget ?
L'innovation que j'aurais voulu voir apparaître dans ce budget, c'est des emprunts. Vous savez, tous les pays du monde empruntent sur la place internationale pour fonctionner. On vous parle des États-Unis qui a des milliers, des milliards de dollars en emprunt. Si eux, ils peuvent emprunter des milliers, des milliards, si nous pouvons, nous, emprunter des dizaines de milliards, ce serait déjà très bien.
Mais on doit être en mesure aussi de les rembourser.
C'est exact. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'un pays comme le nôtre, avec les atouts dont on dispose, nous devons être en mesure d'avoir un plan de développement sur les 30 prochaines années. Parce que lorsqu'on fait un plan d'emprunt pour un pays, ce n'est jamais pour 2 ans, pour 5 ans. C'est pour le long terme. Et deux axes importants méritent d'être alimentés avec cet argent. Un, c'est l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement de base. Deux, c'est la santé. Nous sommes un pays où l'espérance de vie est à 48 ans, nous avons la retraite à 65 ans. Nous sommes dans une incohérence sociale. Et donc, à un moment donné ou à un autre, nous devons décider pour 15 ans au moins, avoir la capacité d'investir dans la santé et dans la formation pour que, d'ici là, nous ayons des citoyens qui soient productifs, capables d'être compétitifs, capables de donner de l'argent à l'État par leur travail. Et donc, il faut également se rendre compte que dans l'état actuel d'un pays hyper isolé, nous avons des centres, villes qui sont isolés les uns des autres, nous n'avons pas d'économie nationale à proprement parler, nous avons 80% de notre population qui est en dehors du système économique. Et ça, c'est dangereux, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça.
Mais vous parlez des emprunts. Ici, quand le Premier ministre enseigne que les recettes qu'il a reprises dans ce budget sont composées des douanes et assises, les impôts, les pétroliers, les producteurs.
Des recettes propres qu'on peut mobiliser.
Oui, mais est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas d'autres rubriques qu'on peut créer en tant que recettes propres? Il n'y a que la douane, il n'y a que les producteurs de pétrole et tout ça.
Vous posez un problème réel. Vous savez, nous sommes signataires d'un certain nombre de conventions régionales. Ça veut dire qu'à terme, nous allons admettre que certains pays amènent ici des produits sans payer la douane. Ça veut dire qu'en réalité, nous devrions dépositionner la douane comme étant un poste stratégique en matière de recettes internes, dans la mesure où nous sommes en train de nous inscrire dans une régionalisation. Et donc, il est important de créer ce que j'appelle l'économie nationale. L'économie nationale a deux bases. La première, c'est le revenu par habitant, et la deuxième base, c'est la participation massive des citoyens à l'économie nationale. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'incorporer le maximum de citoyens dans notre économie. Vous savez, lorsqu'on dit qu'un pays est grand parce qu'il a un territoire large et qu'il a une grande population, en fait, il s'agit d'une population qui a un pouvoir d'achat. C'est pour ça que moi je pense qu'il est important que l'État se batte pour donner une offre de service public à toute la République. Ça veut dire que nous prenions possession de notre étendue nationale et que nous donnions la possibilité à chaque citoyen, où qu'il soit, de contribuer à l'économie nationale. La plus grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une économie des centres urbains.
Voilà, on va passer au deuxième dossier de la semaine. La Société nationale d'électricité peut encore se servir de ses comptes en banque. Vendredi de la semaine dernière, les cadres et agents de cette entreprise ont observé un arrêt de travail pour protester, Jocelyne, contre le gel des comptes de leur entreprise par la Direction générale des impôts, Paul Matendo.
Tout s'est passé entre les ministres sans trop de détails. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rencontré les personnels en colère le même vendredi. Bruno Capangé a indiqué qu'il s'était entretenu avec son collègue des finances pour examiner cette question. Ainsi, les deux avaient pris la décision de rouvrir les comptes de la SNEL. La Société nationale d'électricité doit de l'argent à la DGI à titre d'impôt. Mais le syndicat de la SNEL évoque lui aussi que la DGI doit de l'argent à la SNEL pour sa consommation d'énergie électrique. Patrice Kitebi, ministre des Finances, a tranché et a reconnu qu'il s'agit des consommations des instances supérieures, c'est-à-dire des factures qui doivent être payées par les gouvernements pour les comptes des ministères. Pour la délégation syndicale de la SNEL, le gouvernement avait pris l'engagement par les truchements du ministère des Finances de payer 2 millions de francs congolais chaque fin du mois. Mais jusqu'à ce jour, la SNEL n'a encore rien perçu. À cette préoccupation, Patrice Kitebi a déclaré que le gouvernement est disposé à payer cet argent, mais seulement il y a des contraintes qui font que cet engagement ne soit pas honoré.
Un problème qui a été résolu en tout cas le même vendredi, parce que la SNEL qui s'était empressée de geler le compte de la semaine de la SNEL s'était rendu compte qu'elle-même devait aussi de l'argent à cette entreprise. Et comment pensez, selon vous, la SNEL peut régler ces problèmes d'insolvabilité des entreprises publiques?
Ça me fait rire, Jocelyne, parce que la SNEL est en train d'apprendre à être une entreprise tout court, une entreprise commerciale.
Oui.
Ça veut dire qu'elle a des devoirs et des engagements absolus, comme
elle
toute
doit
autre
payer
entreprise.
Aussi ses impôts.
Et il est important que la SNEL se rende compte que elle est dans une situation privilégiée aujourd'hui parce que le seul actionnaire se trouve être l'État, mais demain ça va être différent. Mm-hmm. Vous savez, la SNEL ne s'occupe même pas de la qualité des services qu'elle rend aux consommateurs que nous sommes. La SNEL change des prix quand elle veut, sans informer. C'est totalement la question du monopole. Et c'est des choses qui vont devoir s'arrêter. Mais en fait, ils sont là dans un apprentissage de la gestion.
Mm-hmm.
Et c'est encore bien que le gouvernement intervienne pour régler un certain nombre de problèmes, mais je crois que c'est une question qui devait se régler entre les deux managers.
Mm-hmm.
Le manager de la DGI et le manager de la SNEL. Et là-dessus, des conventions commerciales ou des arrangements comptables auraient pu se mettre. Je ne vois pas la place des ministres là-dessus.
Mm-hmm.
Et je crois simplement que les uns et les autres doivent être en mesure d'agir avec les moyens qui sont à leur disposition. Aujourd'hui, quand on dit que les factures de la DGI n'ont pas été payées, la vérité, c'est que ce sont les factures du gouvernement qui n'ont pas été payées. Alors la SNEL vous dit, oui, mais si moi, le gouvernement m'a payé mes factures, j'aurais été en mesure de payer les taxes. Les taxes sont obligatoires. Et il est important que la SNEL apprenne à faire du recouvrement, en ce compris face au gouvernement. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que c'est la plus grosse honte de notre pays. On paye bien les factures de SN Bruxelles, on n'a jamais payé les factures de LAC et on a tué LAC. On paye les factures de Vodacom et de RTL et on ne paye pas les factures de l'OCPT, on a tué l'OCPT. Aujourd'hui, on est en train de ne pas payer les factures de la Régie des Eaux et de la SNEL. Bien entendu, ces sociétés vont tomber. À un moment donné ou à un autre, l'État congolais doit se poser la question de savoir quel genre de client il est.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information, bref, la Bralima a augmenté le prix de ses boissons depuis une semaine. Dans un communiqué publié jeudi, la brasserie a indiqué que cette hausse est notamment liée à la hausse du prix du malt sur les cours mondiaux. Le prix des boissons de la Bralima a augmenté d'environ 100 francs congolais.
Dans son communiqué, la brasserie explique que la tonne de malt est passée de 390 à 475 euros. À en croire le document, d'autres raisons justifieraient également cette hausse des prix, notamment l'augmentation du coût de l'électricité et la fin de l'exonération de la TVA sur le FOMI. La Bralima fait remarquer que la mise en place de la TVA à la place de l'impôt sur le chiffre d'affaires en début d'année lui a occasionné une perte d'1% dans son chiffre d'affaires. Dans les débits de boissons de Kinshasa, les prix des produits de l'autre brasseur, la Bracongo, ont également été revus à la hausse, mais les responsables de l'entreprise affirment n'avoir procédé à aucune majoration des prix.
Un petit commentaire sur ça?
Le commentaire que j'aimerais donner ici, c'est qu'il faut comprendre plus ou moins comment les boissons sont distribuées dans notre pays. Ça sous-entend qu'en fait, lorsque une brasserie comme la Bralima, qui est aujourd'hui majoritaire sur le plan du marché, décide soudainement de changer de prix, ça absorbe le capital des distributeurs. Parce que lorsqu'ils vont venir pour acheter du stock, ils vont se rendre compte que leur argent ne peut plus acheter la même quantité.
Mm-hmm.
Ça sous-entend qu'en fait, ce genre de choses devrait se faire dans une commune entente et compréhension avec les distributeurs. Ça, c'est ce que Bralima n'a pas fait, bien entendu. Ça n'a pas donné le temps aux distributeurs de pouvoir répercuter le prix sur les consommateurs réels, celui des dernières lignes. Et très malheureusement, ça va créer une grosse frustration entre les distributeurs et les producteurs de bières.
Mais est-ce que cela, c'est pas le rôle du ministère de l'économie qui doit en quelque sorte protéger ces distributeurs et réguler le marché en même temps? Et
il faut faire attention, nous sommes dans une économie dite libre. Nous sommes dans, c'est un choix politique que nous avons fait de l'économie libre du marché. Ça sous-entend qu'en fait, la vérité du prix est dictée par le marché. En définitive, toutes les charges qu'encourt une entreprise de production, elle les répercute dans sa structure de prix. Et en réalité, le seul rôle du ministère, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas des abus exagérés. Et en réalité...
Mais quand on augmente de prix sans prévenir ses partenaires, c'est un abus aussi.
C'est un véritable abus, je dois être clair avec vous. C'est, ça pose toute la question des rapports entre les brasseurs et leurs distributeurs. Et ces rapports sont malheureusement du grand lion à la pelouse. Et c'est quelque chose qu'il faudrait aménager. C'est d'ailleurs pour ça que je dis, vous savez, dans notre ville de Kinshasa, c'est 3,5 millions de dollars chaque jour en vente de bière pour les deux brasseries mises ensemble. Alors vous posez la question de savoir où sont les millionnaires congolais qui sont dans la distribution. Ça pose un vrai problème.
Panorama économique, matière première.
Matière première au Nord Katanga, démarrage lundi dernier d'activités de transport de minerais en provenance du Maniema au port de transit de Kalemie.
150 tonnes de cassitérite ont été exportées avec succès. L'opération d'exportation des minerais entre dans le cadre du processus de traçabilité amorcé par le gouvernement congolais. Le chef de division des mines au Tanganyika se dit déterminé à encourager les opérateurs économiques du Maniema pour assurer la prospérité dans leurs affaires. François-Xavier Mibé, depuis le Nord Katanga.
Le processus de traçabilité qui démarre intervient 4 mois après le passage du ministre national des Mines au Nord Katanga. Au cours de cette mission, le ministre Kabwelulu a donné des instructions précises en ce qui concerne la traçabilité des minerais. Il a insisté premièrement sur l'installation des centres de négoce partout où l'exploitation des minerais est effective. En deuxième lieu, surtout sur la transparence qui doit se réaliser de manière que le processus de traçabilité s'efface conformément aux normes requises. Et enfin, il a instruit la division des mines au Nord Katanga de réceptionner les minerais en provenance de Kindu et d'en assurer la procédure d'expédition à travers le port de Kalemie. Le chef de division des mines au Nord Katanga, Simon-Pierre Kambi, se veut rassurant à cet effet.
Nous avons réceptionné un lot de 150 tonnes en provenance de Kindu et nous avons assuré le transit et le produit a été exporté. Pas plus tard qu'hier, nous avons réceptionné une autre cargaison de 40 tonnes qui est en gare, dont le processus est en train d'évoluer. Je crois, dès demain, le produit sera expédié.
Le minerai qui a été exporté est de la cassitérite. Ce processus de traçabilité entamé va durer longtemps. C'est qu'affirme cependant le chef de division des mines au Nord Katanga.
Il y a longtemps, la population de Kindu, les opérateurs miniers de Kindu, ils ont souffert. Et nous pensons que de la manière dont nous menons le transit, les opérateurs miniers, ils seront encouragés et je crois que ça va durer le temps que ça va durer. Et le dédouanement se fait à Kindu avec tous les services intervenants dans les domaines miniers et ici à Kalemie, nous réceptionnons la documentation, nous vérifions avec tous les services intervenants, à savoir CEC, DGDA, OCC, ainsi que d'autres, de la conformité de cette documentation. À cela, on est sûr et certain d'exporter le produit déclaré à Kindu.
Terminons pour dire que le processus de transport et d'exportation de minerais de Kindu est facilité par la voie ferroviaire de la SNCC au port des transits de Kalemie. Une voie d'exportation qui a été coupée voici bientôt 20 ans. Kalemie, François-Xavier Mibé pour Écho d'économie, Radio Capi.
Voilà, Alkitenge, c'est donc l'effectivité du processus de traçabilité de, des minerais qui sont au Maniema. Que peut-on attendre de ces processus de traçabilité de minerais de la RDC tant souhaité par tous?
En fait, ça combat la fraude. La fraude, comme vous le savez, alimente les voies dangereuses, y compris la guerre. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais entre les lignes, moi, je note quand même que nous exportons les minerais. Quel est ce pays qui se défait de ses propres ressources au lieu de faire de la valeur ajoutée locale? Il est important qu'en même temps que nous avons ce programme primaire, probablement, d'exportation de minerais, qu'on se dote d'un plan d'industrialisation. Parce que lorsque vous exportez les minerais, à un moment donné, vous devrez racheter de la terre pour venir refermer les trous. Ce n'est pas très responsable pour notre pays.
Panorama économique, reportage.
Le reportage retenu cette semaine et c'est lui sur la prolifération de marchés informels à Kinshasa.
Ces marchés qui naissent comme des champignons, des marchés qu'on qualifierait d'informels, pourtant ils peuvent générer des recettes pour la caisse de l'État. Mais qu'est-ce qui pousse toutes ces personnes à se lancer dans ce commerce? Reportage de Aimé Kabouya.
L'augmentation du taux du chômage à Kinshasa est l'une des principales causes à la base de cette situation. Les cas du marché Kadima sur rond-point Bongolo au niveau de Yolo Medical année 1. Au départ, il n'était pas reconnu par l'État des villes. Le vendeur proposait des produits à même le sol à leurs clients et subissait régulièrement les menaces des agents de la police. Mais avec le temps, c'est devenu un véritable marché avec des étalages. 35 dollars pour s'en procurer un. Et les habitants environnants ne sont plus obligés de se rendre au grand marché. Le vendeur opérant dans ces marchés paye chaque matin une taxe estimée à 200 francs congolais. Cela ne les dérange pas vraiment. Une des vendeuses témoigne. Mais du côté du nouveau marché devant l'IFASIC au centre-ville et celui du quartier 1 Julie sous les Ecalbitus, il n'y a pas d'inquiétude. Le vendeur affirme qu'ils sont pourchassés au quotidien par les agents de la police, car n'ayant pas été autorisés à vendre sur ces sites. Mais curieusement, les agents de l'hôtel de ville y passent régulièrement percevoir 200 francs et les policiers 500 francs. Cependant, pour le ministre provincial de Finances, Guy Matondo, ces marchés pirates se sont développés à Kinshasa parce que les petits commerçants veulent vendre tous le long de la route. Guy Matondo.
C'est une certaine mauvaise habitude qui s'est créée auprès de la population. Les commerçants veulent vendre tout au long de la route. Pourquoi? Parce que même ceux qui viennent acheter, surtout ceux qui sont dans des véhicules, ils ne veulent plus descendre, ils stationnent juste à côté des marchés et ils font les marchés juste, ils font leurs transactions juste avec ceux qui sont tout au long. Donc il faudra que la population puisse comprendre que dorénavant, il ne faudra plus faire des négoces tout au long de la route, que les gens puissent s'installer dans les marchés, on va les classer par rapport à leur secteur d'activité. Il y a des instructions qu'on a données.
Une chose est certaine, ces marchés pirates facilitent la tâche au bon nombre de Kinois. Mais leur organisation augmenterait sans doute les recettes de la ville province de Kinshasa et faciliterait la tâche à tout le monde.
Voilà, plus des commerçants à Kinshasa que de vrais investisseurs. Hein. En tout cas, un investissement qui n'est pas durable, si on doit le dire, le commerce pur est simple, mais ça c'est un problème. Un autre problème, c'est que le gouvernorat ne doit pas carrément aménager de l'espace pour ces commerçants, parce qu'il faut le dire, la population est en train de croître et les anciens marchés deviennent peut-être trop distants et d'autres quartiers nouvellement lotis.
Je crois que le problème doit être posé de manière globale. La réalité, c'est que nous avons tout en informel. Les marchés sont informels, les arrêts de bus sont informels, les gens décident de s'arrêter où ils veulent s'arrêter, les parkings sont informels, même les pharmacies et les hôpitaux et les centres médicaux sont informels. Chacun peut décider du jour au lendemain de s'installer, y compris dans les matières qui sont hautement réglementées. Et je pense que l'État congolais doit se dire qu'il doit planifier. Vous savez, on planifie où est-ce que les gens sont censés s'arrêter. Parce que si les gens s'arrêtent n'importe où, à un moment donné, ils vont provoquer des embouteillages. Regardez ce qui se passe dans les différents ronds-points, le rond-point Ngaba par exemple. C'est une folie furieuse. Personne ne réfléchit à comment les gens devraient en réalité se conduire à cet endroit-là.
Mais il y a pas. Ils prennent des mesures, mais juste après, les mesures sont bafouées, on revient.
Quoi le vrai problème, justement?
Le vrai problème, c'est que personne ne dit ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Alors les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ils s'arrêtent où ils veulent. Ils achètent les médicaments ou ils vendent les médicaments où ils veulent. Les gens ouvrent des centres médicaux où ils veulent. Et je pense simplement qu'un pays, une ville, doit être planifié. Et il y a ce qu'on appelle un code. Il doit être respecté. Et je crois que l'État congolais suit, au lieu d'être celui qui planifie. Et là-dessus, ça pose toute une question de cohérence. Vous savez, aujourd'hui, les gens lotissent des maisons où ils veulent. La conséquence, c'est que nous avons des érosions. Et quand il y a des érosions, il n'y a que l'État qui peut venir les stopper parce que ces érosions menacent les grandes eaux. Ça coûte trop cher. Ça coûterait moins cher de pouvoir planifier, prendre des dispositions, décider où les gens sont censés construire et où ils ne sont pas censés construire. Et je crois simplement que là-dessus, les Kinois ont une grande responsabilité. Par exemple, en ce qui concerne les enfants de rue, ils sont dans dans la rue simplement parce que nous continuons à leur donner de l'argent, parce que nous continuons à acheter les biens qu'ils vendent. Si les Congolais, particulièrement les Kinois, se conduisent de manière plus responsable, nous n'aurions pas d'enfants dans la rue parce que nous les y maintenons.
Voilà, Alki Tengue, c'est sur ces commentaires que nous terminons Panorama économique d'aujourd'hui. Merci d'être venu dans ces studios pour cette émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis à la présentation. C'était Jocelyne Moussaou et Agathe Mponaelema, que je remercie.
Merci, mesdames.
Merci. Bon week-end à vous tous. Rendez-vous avec l'économie, l'actualité économique. C'est lundi à partir de 18h15, heure de Kinshasa, Panorama économique. Samedi prochain, midi et demi, heure de Kinshasa. Bon week-end à vous tous.